journal est présenté par Claire Flechel. Bonjour Claire.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Ils n'ont Dieu que pour lui, pour beaucoup de militants, les Républicains. Nicolas Sarkozy, c'est le Messie. Mais non, lui ne veut pas sauver le parti. Vous l'entendrez, l'ancien président était en déplacement à Belfort hier pour inaugurer la rue Simone Veil. Un pansement à 70 millions d'euros pour calmer la colère des urgentistes en grève depuis 3 mois. La ministre de la Santé a promis cette enveloppe hier, 70 millions d'euros de mesures immédiates. Pas vraiment convaincant pour les professionnels, les syndicats sont plutôt mitigés. On y reviendra d'ailleurs avec votre invité, Caroline.
Oui, il est gynécologue obstétricien. C'est le père d'Amandine, le premier bébé éprouvette en France. Il est aussi producteur sur France Culture. C'est René Friedman qui sera notre invité. Nous lui parlerons bien sûr du système de soins en France et de la crise des urgences, mais aussi de la PMA et aussi de l'interruption volontaire de grossesse en France et dans le monde.
Qui est derrière les attaques de 2 pétroliers dans le golfe d'Oman? Pour les Américains, ça ne fait aucun doute, c'est l'Iran qui en est responsable. En attendant, les tensions diplomatiques sont extrêmes entre Washington et Téhéran.
Et puis vous irez aussi au Brésil. Dans ce journal, hier, les syndicats appelaient à une grève générale contre la réforme des retraites du gouvernement Bolsonaro. Manifestation suivie dans le pays, et pays en partie bloqué.
Nicolas Sarkozy a donc refait une apparition hier. L'ancien président s'est rendu à Belfort pour l'inauguration d'une rue Simone Veil et pour rencontrer l'intersyndicale de General Electric. Ils sont plusieurs au sein de la droite républicaine à espérer le retour de l'ancien président de la République. Mais visiblement, Rosalie Lafarge, c'est non.
L'homme providentiel, le Messie, le seul à pouvoir sortir les LR de la crise profonde qu'il traverse. Ils sont plusieurs au sein du parti à voir en Nicolas Sarkozy la solution pour tourner les pages de la défaite à la présidentielle et de la déroute aux européennes. Mais le retour, l'ancien président l'a déjà tenté après son échec en 2012 et il a perdu dès le premier tour de la primaire 4 ans plus tard face à Alain Juppé et François Fillon. Alors essayer une deuxième fois de revenir dans l'arène, manifestement ça ne le tente pas Nicolas Sarkozy.
J'ai beaucoup de fidélité et d'amitié pour les militants, les électeurs, tous ceux qui m'ont fait confiance. Je les aime beaucoup, mais ce n'est plus mon quotidien et c'est pas ma responsabilité. Je ne suis plus élu, ce n'est pas mon actualité, c'est pas ma vie.
Et donc c'est non pour prendre la tête du parti en pleine tentative de reconstruction. Il faudra trouver quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un qui n'est pas sous la menace de plusieurs procès dans l'affaire Big Malion, l'affaire des écoutes ou encore celle de l'utilisation de grosses coupures pour laquelle on vient d'apprendre l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Même si c'est vrai, malgré tout cela, Nicolas Sarkozy reste, selon plusieurs études, le meilleur candidat dans le cœur des sympathisants LR.
Rosalie Lafarge, Nicolas Sarkozy, vous le disiez Rosalie, qui n'en a pas fini avec la justice. Le parquet national financier a ouvert une enquête à propos de son usage régulier de liquide en grosse coupure. Lors d'une perquisition menée à Paris en 2017 dans le cadre d'un autre dossier, on avait découvert une enveloppe avec plusieurs billets de 500 euros utilisés par Nicolas Sarkozy. L'État débloque 70 millions d'euros pour tenter de sortir de la crise des urgences. La ministre de la Santé a détaillé hier à quoi servira cet argent. D'abord à payer une prime d'une 100 euros par mois aux urgentistes et dans une moindre mesure à embaucher des personnels pour la période estivale. Les syndicats et le collectif Interurgence se donnent jusqu'à lundi pour prendre position. Mais dès hier, les représentants des grévistes venus au ministère étaient plutôt sceptiques, notamment à cause de cette deuxième mesure annoncée par la ministre Tara Schlegel.
Il s'agit d'une prime de coopération proposée aux infirmiers et aides-soignants qui accepteront une délégation de tâches. Elle existe déjà, souligne Olivier Winou du syndicat Sud Santé.
La coopération interprofessionnelle de santé est cadrée par l'article 51 de la loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire de Roselyne Bachelot. Donc c'est quelque chose qui date, hein, c'est pas une nouveauté. Comme il n'y a plus suffisamment de médecins pour faire les choses, on va demander à d'autres de le faire à leur place. Bon. On avait un problème juridique parce qu'on a une loi qui l'autorise, mais on a des décrets de compétences qui ne le reconnaissent pas. C'est transfert de tâches pour l'instant. Alors, est-ce que la ministre va répondre à ça? Elle l'a pas dit, en tout cas aujourd'hui. Je lui ai posé la question, mais elle n'y a pas répondu. Donc, vous voyez, et puis il y a le tri. Selon quels critères celui-ci est choisi plus qu'un autre? Voilà. Donc, cette prime-là, elle n'est pas pour tout le monde.
Or, les syndicats demandent des mesures pour tous. Patrick Bourdillon, de la CGT, rappelle aussi que cette délégation de tâches nécessite que les personnels se forment, ce qui est difficile.
Les effectifs étant très tendus, la possibilité de pouvoir aller se former pour les professionnels aux urgences ou ailleurs, à l'hôpital d'ailleurs, étant très limitée parce qu'il n'y a pas de monde pour se remplacer, au moins la réalité c'est que les professionnels ne sont pas formés. Donc si à un moment on soumet cette prime-là à l'obligation de formation, elle ne sera jamais distribuée. Donc nous, quand la ministre souhaite calmer une colère, c'est une démarche légitime de sa part. La difficulté qu'on a, c'est que estimer qu'une prime est quelque chose de pérenne, ce n'est pas le cas, parce qu'une prime, ça se donne, ça s'enlève. Une augmentation de salaire, c'est un élément qui est maintenu. Derrière, la vraie reconnaissance professionnelle, elle va être sur la durée.
Les organisations syndicales réclament donc l'ouverture de vraies négociations avec le ministère et non une mission nationale qui ouvrira des pistes cet automne.
Nous sommes ce matin avec René Friedman, obstétricien et gynécologue consultant à l'hôpital Foch à Paris. Bonjour.
Bonjour.
J'aimerais revenir avec vous ce matin sur la principale mesure annoncée par Agnès Buzyn. Cette prime de risque d'une centaine d'euros versée dès le mois prochain à tous les professionnels des services d'urgence. Selon vous, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une reconnaissance de la difficulté du travail?
Enfin, c'est nécessaire maintenant parce qu'il y a vraiment une situation de crise. Maintenant, ça fait longtemps qu'elle existe, cette situation de crise. Le nombre de rapports sur les urgences mérite une mise à plat plus profonde que d'éteindre le feu actuellement. Et c'est surtout ce problème-là, c'est-à-dire qu'on va rediscuter de savoir pourquoi est-ce que les gens vont aux urgences qui sont embouteillées, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas ailleurs lorsqu'ils n'ont pas véritablement une raison médicale. Alors oui, on peut aller voir une maison de santé, mais simplement il faut débourser. Alors que si on va aux urgences, on débourse pas. C'est ça le fond de l'affaire, on veut pas le voir. Donc il faut transformer, c'est la transformation, et c'est peut-être dans la loi santé 2022 qu'il y aura ces deux phases. Il y a une phase immédiate pour essayer de calmer le feu, c'est vrai, mais il y a une phase beaucoup plus profonde, et en particulier, ça rejoint la question qui s'occupe de la santé. Je veux dire par là, l'État bien entendu, mais est-ce que les régions ont vraiment leur place? Et non, malheureusement, la région ne s'occupe pas de la santé, c'est pas dans ses attributions, et je pense que l'organisation de la santé, toute l'organisation, l'offre de soins que l'on peut faire à la population, elle passe par les territoires et par le local.
Merci René Friedman, on vous retrouve juste après ce journal avec Caroline Brouet. L'incendie de Notre-Dame de Paris, c'était il y a 2 mois, jour pour jour, et c'est aujourd'hui que le diocèse a décidé de célébrer à nouveau une messe dans la cathédrale. En petit comité, seule une trentaine de personnes, dont une moitié de prêtres, assisteront à cet office dans la chapelle située derrière le chœur, dans un endroit sécurisé. Retransmission à 18h en direct par la chaîne catholique Cato. La passagère de Lorient mise en examen pour non-assistance à mineurs de moins de 15 ans. Les juges ont décidé à l'issue de sa garde à vue de la placer en détention provisoire dimanche soir. Elle était dans la voiture qui a fauché 2 enfants à Lorient. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état grave. Elle s'était rendue à la police mercredi soir. Le conducteur est principal suspect et lui toujours recherché. Le secrétaire général de l'ONU réclame une enquête indépendante pour trouver les coupables des attaques il y a 2 jours contre 2 pétroliers en mer d'Oman. Les États-Unis accusent l'Iran. L'armée américaine a diffusé une vidéo où l'on voit 7 hommes dans une petite embarcation en train de retirer une mine ventouse encore intacte sur le flanc d'un des pétroliers. Le Pentagone affirme qu'il s'agit de gardiens de la révolution islamique. Téhéran, de son côté, rejette ces accusations. Des tensions entre les faucons des deux camps qui sont des prétextes de plus en plus pour en découdre, Christian Cheneau.
À Washington comme à Téhéran, les faucons jouent sur la stratégie de la tension. Côté américain, Donald Trump est aiguillonné par John Bolton, conseiller à la sécurité nationale. Ce chef de file des néoconservateurs était déjà actif sous la présidence de George W. Bush au début des années 2000. Il fut l'un des architectes de la guerre en Irak en 2003. Aujourd'hui, son obsession, c'est l'Iran. Bolton est un farouche partisan d'une intervention militaire pour renverser le régime iranien. Mike Pompeo, le secrétaire d'État, ancien patron de la CIA, est également omnibulé par l'Iran, moins idéologue que Bolton, et il veut, comme lui, faire rendre gorge aux Iraniens. À Téhéran, le camp des durs a le vent en poupe, il n'a jamais digéré l'accord sur le nucléaire, signé avec les grandes puissances, emmené par les gardiens de la révolution, c'est jusqu'au boutiste, considère que tout rapprochement ou apaisement avec le grand Satan américain signifierait la fin programmée de la République islamique. Ils veulent un Iran révolutionnaire, bunkérisé, qui défie les Occidentaux. Entre les faucons américains et iraniens, l'objectif est de faire monter la tension, et jusqu'à présent, c'est réussi.
Et Christian Chéneau.
France Culture, il est 8h09, suite du journal. Alors que Donald Trump fêtait hier son 73e anniversaire et qu'il s'apprête mardi prochain à lancer officiellement sa campagne pour la présidentielle de 2020, une exposition pas comme les autres se tient ce week-end à Washington, à 3 rues seulement de la Maison-Blanche.
On peut y voir exposer les tweets de Donald Trump, l'un des moyens de communication favoris du président américain. Et c'est pour cette raison que l'émission The Daily Show de la chaîne Comedy Central a imaginé cette bibliothèque de tweets présidentiels. Les plus célèbres y sont affichés au mur dans des cadres dorés, comme dans un musée. Visite guidée avec Grégory Phillips.
Bienvenue dans la bibliothèque présidentielle des tweets de Donald J. Trump. Un peu partout au mur, dans des cadres dorés, comme pour des tableaux de maître, des centaines de messages. Le plus célèbre peut-être, Kofefe, tweet énigmatique publié par le locataire de la Maison Blanche en mai 2017.
So if you type your first name in...
Dès l'entrée de l'exposition, on vous demande de saisir votre prénom dans un ordinateur qui immédiatement recrache le surnom que Trump vous aurait attribué.
You're Twerpy Gregory.
Dans mon cas, Greg le loser.
There's gonna be a crisis video.
Puis au fond, une reproduction du bureau ovale, grandeur nature, où vous devenez le commander in tweet. On vous présente une situation de crise et vous avez 30 secondes pour envoyer un message sur le réseau social. Rire garanti. L'exposition temporaire attire évidemment surtout des démocrates. C'est fantastique, dit Joe. C'est très bien d'avoir une réponse humoristique à Trump. Moi, je trouve que c'est une bonne catharsis, reprend Elisabeth, face à une politique qui souvent n'est pas drôle du tout. Vraiment, c'est bien. Enfin, à chaque fois que Donald Trump tweet pour de vrai, un gyrophare rouge et la voix du milliardaire préviennent tous ceux qui déambulent dans cette fausse bibliothèque présidentielle. C'est arrivé 3 fois pendant ma visite qui a duré une petite heure.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. Toujours pas de répit en Algérie. Nouveau vendredi de mobilisation anti-régime hier, le 17e de suite. Malgré des interdictions de manifester à Alger, la capitale était noire de monde. À Hong Kong, l'exécutif serait sur le point de revenir sur le projet de loi contre lequel des centaines de milliers de personnes, surtout des jeunes, manifestent depuis des semaines. Le texte veut autoriser les extraditions vers la Chine. Selon la presse, la première ministre devrait annoncer son report dans la journée. Le Brésil, en partie paralysé hier, les syndicats appelaient à la grève générale pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement Jair Bolsonaro. Des manifestations ont eu lieu dans plus de 200 villes. Reportage d'Anne Vigna à Rio de Janeiro.
Fer de lance de l'opposition au gouvernement Bolsonaro, les étudiants et les professeurs étaient les plus nombreux hier dans les manifestations au Brésil. Car comme l'explique Ana Maria, les enseignants sont très concernés par cette réforme des retraites.
Cette réforme va changer la vie de beaucoup de travailleurs brésiliens. Nous, les professeurs, on prend notre retraite après 35 ans de service. Et ils veulent augmenter cela. Vous imaginez quelqu'un de 70 ans en salle de cours?
Cette semaine, le gouvernement a pourtant revu sa copie, mais c'est encore insuffisant pour Tarcísio Mota. Il est un des leaders de l'opposition à Rio.
On était déjà contre cette réforme pour proposer un régime par capitalisation, pour attaquer la retraite des paysans et les bénéfices pour les plus pauvres. Cela a été supprimé hier et c'est une victoire, mais on est toujours contre. Le système de sécurité sociale brésilien distribue des revenus et cette réforme, comme elle est proposée, va concentrer encore plus les revenus.
En plus de la réforme des retraites, les manifestants ont concentré leurs attaques sur le juge Moro, aujourd'hui ministre de la Justice et dont les conversations privées ont été rendues publiques. L'ambition politique du juge apparaît au grand jour, tout comme sa volonté de nuire à l'ancien président Lula, dont les manifestants demandent aujourd'hui la libération.
Reportage d'Anne Vigna, correspondante de France Culture à Rio de Janeiro. Retour en France avec les 10e journée nationale de l'archéologie. Des chantiers de fouilles ouvrent leurs portes au public pour montrer leurs découvertes aux visiteurs. À Noisy-le-Grand, par exemple, de nouvelles fouilles ont débuté au début du mois, juste à côté de l'une des plus grandes nécropoles de France. Le premier site découvert il y a 10 ans a depuis été recouvert par un projet immobilier. Cette fois, les archéologues ont plus de temps pour fouiller et ils ont choisi de le faire sous le nez des passants. Mathilde Dehimy.
C'est le nouveau passe-temps des habitants de Noisy-le-Grand, regarder des squelettes mérovingiens en attendant leur bus, comme Daniel et Patrick.
Moi j'allais sur la tombe de mes parents en bas, vous voyez, et par hasard je suis tombé là.
C'est peut-être la tombe de vos arrière-grands-parents qu'on retrouve là. Arrière.
Ils sont pas là. impressionné, c'est que les gens, ils sont entiers, là, quoi. Et je voulais savoir de quelle époque ça datait, tout ça, quoi.
Des questions auxquelles répondent avec plaisir les archéologues du chantier qui ont très peu l'habitude d'être aussi près du public, raconte Christelle Seng.
Je prends pas mal plaisir quand même à échanger avec eux. Ils ont des questions qui sont tout à fait légitimes. Nous, on s'en rend pas compte, on a plus l'habitude, mais je pense que tomber nez à nez, effectivement, descendant du bus avec cette série de squelettes, ça doit être assez impressionnant.
Du grillage très ouvert, plutôt que des palissades de travaux, un choix assumé par Cyril Laforestier, archéo-anthropologue.
Moi, j'ai toujours eu envie, en fait, de partager ce que je trouvais. Et quand on fouille des squelettes, on touche directement à l'intimité de l'humain. Et donc, je voulais réellement que les gens du coin se rendent compte qu'il y a près de chez eux, en fait, une nécropole. C'est leur terroir local qu'ils peuvent se l'approprier, en fin de compte.
En une semaine, les archéologues ont dégagé une douzaine de sépultures.
Donc là, je gratte sur de la pierre. Et à côté, j'ai un os et le bruit est beaucoup plus sourd.
Leur travail permettra de mieux comprendre les pratiques funéraires des mérovingiens et carolingiens.
Reportage signé Mathilde Dehimi. La météo de ce samedi, des averses orageuses vont se développer du sud-ouest à Auvergne-Rhône-Alpes et à la Bourgogne-Franche-Comté. Temps plus calme ailleurs avec de belles éclaircies. Les températures maximales varient de 17 à 22 degrés sur la moitié ouest, mais jusqu'à 28 degrés plus à l'est.